Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on réfléchit, on commente l'actualité ambiante. Grosse semaine, mais avec moi, j'ai quelqu'un de fantastique qui connaît ça et qui aime en discuter. Joanie Rinaldo,
bonjour. Bonjour Pierre.
Ça va bien?
Oui, je suis très contente de te revoir. Ça fait près d'un mois qu'on ne s'est pas vu, toi
ben
et moi.
Oui, mais ça fait du bien des fois prendre une petite pause.
Oui, ça fait qu'on a encore plus de... c'est parce qu'on a encore plus de sujets à discuter et beaucoup plus d'échanges à faire.
Exactement. Hey, soirée électorale, on en a parlé, mais là, dimanche, c'est les élections municipales.
Oui.
Donc, moi, ce que j'ai à dire, premièrement, c'est, écoutez, allez voter. Hein? Oui, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, hein, le devoir de citoyen. Je dis ça parce que les élections municipales, c'est là où il y a le plus bas taux de participation, mais en même temps, c'est le poste de pouvoir le plus près de vous. Vous pouvez avoir une incidence. Allez-y, informez-vous, allez voter, c'est important.
Celui qui a le plus d'impact direct sur notre vie quotidienne, pas sur notre... c'est la journée des poubelles, mais sur le parc dans le coin de chez vous, sur les organismes qui vont...
Déneigement, l'embellissement de la ville. Écoute, il y a beaucoup d'affaires.
Oui, mais il y a quelque chose que je dois te dire, ça m'amène sur un autre sujet. Je peux comprendre des gens qui ne vont pas voter, mais je le décourage complètement, moi aussi. Mais cette année... par exemple, à Dolbeau-Mistassini, on y va pour des postes de conseiller.
Mais, oui, mais les conseillers sont importants. C'est eux qui votent autour de la table, là. C'est pas le maire.
Mais on ne connaît rien de chacun d'eux. Dans le fond, on vote pour des noms présentement.
Ah non, on a fait une belle couverture. Nouvelle hebdo ici, on a essayé. Non, mais on fait l'effort. C'est sûr qu'on ne peut pas couvrir les conseillers municipaux de...
Non, même, tu me dis qu'il y a une couverture. Pourquoi moi, je n'ai pas vu ou je n'ai pas trouvé d'intérêt ou j'ai pas... Il n'y a rien qui s'est démarqué pour donner le goût de voter pour un candidat plus qu'un autre. Donc, ça va être vraiment par... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter par celui qu'on a vu le plus souvent le nom.
Oui, mais en tout cas, je vous dis, moi, qu'il y a quand même une bonne couverture. Moi, je suis à Saint-Gédéon, c'est une petite municipalité. Puis
oui.
Écoute, je vais avoir aussi à voter pour les conseillers dimanche. Puis je vais te dire qu'on n'a pas entendu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose. La couverture, hein, les médias locaux sont importants. Merci d'ailleurs de nous suivre.
Oui, puis c'est un commentaire, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau des élections. Donc,
oui,
j'ai hâte de voir le résultat.
Des grosses élections. Normandin, Saint-Félicien, Robertval, Saint-Prime,
oui,
Alma,
Saint-Prime,
Saguenay.
Ça chauffe énormément.
Ben oui.
Donc, il y a beaucoup d'élections qui vont être à surveiller. T'sais, par exemple, la candidate qui est en compétition avec l'ancien directeur de PFR, Produits Forestiers Résolus, on s'entend que
c'est un beau combat.
C'est un beau
mais il ne fait pas l'unanimité, M. Garneau. Là. Les gens reconnaissent son travail, mais on entend. Puis ça fait partie de la bisbille aussi qu'il y a à Saint-Prime.
Oui, puis d'une expérience personnelle, c'est pas toujours. Tu sais, c'est pas parce que c'est un chef d'entreprise que c'est un bon représentant politique.
Non, puis on gère pas une ville comme. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent ça, moi, ça me fait rire, là, les entrepreneurs qui s'en vont en politique, puis disent moi, je sais gérer une entreprise, je vais savoir gérer la ville. C'est pas en tout la même affaire.
Non, t'sais. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pour ça que. Ça va être intéressant de voir dans le cadre de la soirée électorale de la télé du Lac de dimanche, le 7 novembre prochain.
Oui, c'est bon. On a bien hâte de voir. As-tu des prédictions? Alma, Saguenay, Saint-Félicien, Normandin, comment tu vois ça? Quelle course tu as le plus hâte de suivre? Puis où tu penses que ça va être le plus serré?
Quand je te dis que j'ai un manque d'intérêt, personnellement, à propos de ça,
mais tu sais qu'on t'engage pour ton intérêt dans l'actualité?
Dans l'actualité, mais ça ne veut pas dire que c'est juste la politique, l'actualité. Ouais. Donc, ça donne quand même un indicateur. Moi, je vais être curieuse de voir ceux qui vont être élus, comment ça va aller. Ça va être plus après l'élection que je vais trouver intéressant. Mm-hmm. Mais Saint-Prime, il y a beaucoup de sujets présentement qui débordent. Robertval, ça va être un changement assez important après le départ de Sabin Côté. Mm-hmm. Les MRC aussi. Les MRC aussi vont tomber en élection. Là. Donc,
ben oui,
les préfets, c'est énorme.
Ici, c'est réglé, mais oui, préfet, c'est un poste intéressant.
Oui, bien, le préfet.
Pouvoir intéressant.
Ben oui, préfet de la MRC Domaine du Roy avec les projets de véloroute et autres, c'est des choses qui sont intéressantes à regarder parce que on va se le dire. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a combien de MRC que c'est des élections?
C'est aux élections, là, que c'est pas nommé.
C'est pas entre les
mains. Je pense qu'on est rendu à deux.
C'est ça. Donc, les deux du nord du lac Saint-Jean. Mm-hmm. Donc, les deux du haut du lac. Donc, c'est intéressant de voir. Puis, c'est intéressant aussi de voir l'impact d'une campagne comme ça. Donc, c'est pas un préfet qu'on apprend parce que c'est un maire d'une autre ville. Non, c'est des gens qui peuvent être préfère sans être maire aussi. Donc, c'est intéressant à voir, là. Comme par exemple M. Luxemard.
Oui, puis ça amène une question de la légitimité. C'est très, 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 très intéressant. Mais on va suivre ça. On va en reparler assurément la semaine prochaine, hein, parce que, oui, bon, vous savez, c'est un gros sujet. Tu viens de nommer la Véloroute des Bleuets dans les, oui, projets, entre autres, pour Domaine du Roi. Un record d'achalandage cette année pour la Véloroute.
On parle quand même de plus de 300 000 utilisateurs de la Véloroute des Bleuets, oui, au cours de l'été 2021.
Oui, je veux qu'on se rappelle, là, quand on avait ce projet-là, là, il y a plusieurs années, là, puis qu'il y avait des détracteurs, on disait, pourquoi on fait ça? Bien, c'est démontré par la science. Plus on aura de pistes cyclables, plus on aura de cyclistes, et plus on va avoir de routes, plus on va avoir d'autos, tu sais. Fait que c'est intéressant de développer aussi ces circuits-là. Puis on voit que touristiquement, pour nous, c'est payant parce que le lac est tellement magnifique.
Bien, dans le cadre de la pandémie, on ne se cachera pas, dans le cadre de la COVID-19, les résultats de la Véloroute ont démontré une augmentation de la durée du séjour des touristes. Donc, on a passé de 2,5 à 4,1 jours. Oh. Donc, c'est quand même, on s'entend, c'est deux nuitées de plus. Mm-hmm. Donc, on parle au niveau de l'hôtellerie, on parle des activités touristiques, restauration,
l'essence,
entretien des vélos aussi. Mm-hmm. Donc, tout ce qui tourne autour reste quand même intéressant. Puis ça demande aussi que, moi, je me dis, en tant que participant de la Véloroute, si au lieu de me dire les gens font en moyenne aux deux jours, puis je regarde le nombre de kilomètres, je vais faire, c'est pas pour moi. Mm-hmm. Mais si on dit, c'est plus 4 jours, je fais, OK. Donc, c'est plus accessible. Il y a une apparence d'être plus accessible auprès des gens. Oui.
Puis aussi, au niveau du tourisme, quand tu viens de l'extérieur, tu veux toujours ramener des souvenirs. Mais on a tellement là, d'écotourisme, des économisés, des produits locaux. On développe tellement de choses. Bravo!
Même que la Véloroute est un argument d'accueil pour les nouveaux arrivants.
Pourquoi?
Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, qui ont des ados qui se disent qu'ils ne sont pas dans la culture du scooter. Bien, ils se disent, bien, j'ai pas peur de laisser aller mon enfant d'aller d'un village à un autre, d'une communauté à un autre, parce que je sais qu'ils vont prendre la Véloroute, ouais, que c'est protégé, que c'est sécuritaire. Donc, plus d'autonomie pour les adolescents ou les enfants.
Tu as tellement raison. Je me rappelle comment c'était dangereux, moi, quand je faisais du vélo adolescent.
C'est sur le bord de la 169, ben sur, oui, le bord, oui, de la 170. Donc
sur le bord de la route, là.
Sur le bord de la route, alors que la Véloroute, même s'il y a des jonctions, parce que ça a fait encore scandale entre Saint-Félicien et Alma, bien, c'est quand même des espaces qui sont protégés, qui sont indiqués, qui sont balisés pour ça. Donc, ça reste quand même très intéressant. Puis ça a des retombées plus que touristiques. C'est sûr que c'est marginal, les retombées au niveau local, mais pas, je veux dire, au niveau du nouveau résident ou de l'utilisateur qui citoyen du milieu. Mais ça reste quand même des impacts ultra positifs.
Ouais, on va suivre ça en espérant qu'ils puissent se développer, qu'ils règlent les problématiques qu'ils ont avec le Canadien national pour les droits de passage, etc. Là, mais je pense qu'avec de la bonne foi et de la volonté politique, on va y arriver. Puis on va encore améliorer le produit. C'est le fun parce qu'on sent qu'il n'y a pas rien qu'un engouement, ça devient une nécessité d'investir là parce qu'on sent que c'est... Ça fait longtemps qu'on disait que ça nous prend une locomotive touristique dans la région. Oui, on avait le Zoo, Val-Jalbert, mais là, moi, je pense que la locomotive, c'est la Véloroute des Bleuets.
Bien oui. Puis, bien, tu sais, je vais répéter un peu ce qu'on s'est dit il y a un mois à propos de la Véloroute, le projet en lien avec le CN. Pourquoi on ne peut pas voir c'est quoi les plans de la Véloroute puis qu'on fait juste entendre que la CN dit non? C'est quoi le plan? Est-ce qu'on va être d'accord, nous, en tant que citoyens? Donc, j'invite les gens. C'est quoi le plan? C'est quoi le trajet en question où ça bloque avec le CN? C'est quel bout qui bloque?
Ouais, peut-être que des gens pourraient avoir des pistes de solution aussi.
Ben
là,
oui!
Si c'est quoi le problème?
Est-ce qu'il y a des pistes de solution? Est-ce qu'il y aurait des solutions qui seraient peut-être plus coûteuses et audacieuses, mais qui feraient plus unanimité auprès du CN et des citoyens? Est-ce qu'il y a un pont par-dessus ou quoi? C'est des choses qui sont à prendre en compte pareil. Mais là, présentement, tout ce qu'on entend, c'est le CN ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir de quoi?
Ouais. On va suivre ça. Hey, hausse des demandes d'accompagnement auprès de la SADC Maria Chapdelaine.
Oui, bien,
qu'est-ce qui se passe?
La SADC, c'est le service d'aide au développement des communautés. Mm-hmm. Donc, on parle quand même d'une institution qui dure depuis assez longtemps, oui, dans, oui, la MRC Maria Chapdelaine, dont le principe, c'est le prêt d'argent pour les entreprises, mais le prêt sans intérêt sur un certain temps donné, pour permettre aux entreprises de développer, d'être rentables, afin de contracter un prêt avec un taux d'intérêt beaucoup plus raisonnable auprès d'une banque.
D'accord.
Et c'est tout ça, c'est pas un prêt, un chèque sans rien. Il y a un accompagnement qui est fait par des professionnels.
Pour s'assurer que le projet fonctionne.
Puis pas juste pour s'assurer, mais pour aider l'entreprise ou l'entrepreneur dans son projet, pour que ça reste son projet, mais aussi pour qu'il soit viable à long terme puis acquérir des connaissances au niveau de la gestion d'une entreprise. Comme par exemple, étant donné la COVID, on s'entend, c'est intéressant de voir que 50% des services de l'année passée, donc de 2020-2021, étaient pour de l'aide à l'expansion d'entreprise. Donc, d'agrandissement, de nouveaux services, de nouveaux établissements. C'est génial!
Oui.
Il y a aussi 26% pour le démarrage. Donc, quand on parle d'une organisation qui a plus d'un million à soutenir, c'est quand même très intéressant.
Puis on le sait, c'est dur. Les entrepreneurs de longue date, ils savent, là, rappelez-vous vos débuts, c'est pas facile de savoir comment faire. Fait que, tu sais, avoir des gens pour nous accompagner pour démarrer l'entreprise, je pense que ça peut nous éviter beaucoup de pièges.
Bien, c'est quoi un plan d'affaires? C'est quoi les formations qui peuvent être utiles en ressources humaines, en démarrage d'entreprise, en comptabilité? Les valeurs aussi qu'on veut retrouver dans notre entreprise, est-ce que ça vaut la peine, tu sais, d'en faire la différence entre une dépense et un investissement? Même chacun des individus, ça vaudrait la peine de l'apprendre. Mais pour un entrepreneur, c'est essentiel. Donc, tout ça, c'est des accompagnements que la SADC peut offrir à des entreprises et des communautés, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des collectivités. Mm-hmm. Donc, quand il y a des projets communautaires de développement local, la SADC aussi peut investir autant de l'argent que des ressources humaines pour l'accompagnement, puis 17% pour l'acquisition d'entreprises. Donc, parce que ça, c'est un autre problème qu'on ne parle pas très souvent, mais c'est la relève d'entreprise.
Ben, oui, ben oui.
Donc, c'est intéressant de voir que 17% des soutiens que la SADC a fait au cours de l'année 2020-2021, c'est pour aider des entrepreneurs à acquérir pour pérenniser une entreprise, pour qu'elle dure dans le temps puis qu'elle change d'administration. Ça démontre un dynamisme, ça démontre aussi une proactivité de la part de nos entrepreneurs.
Génial, génial. Hein? Non, mais c'est important. Puis on les a, ces services-là. Il y a de l'argent à investir. On peut vous aider. Non, mais tu sais, pour ceux, mettons, qui se disent, ouais, ça me sert-tu vraiment? Allez voir, poser des questions. Vous pouvez être surpris de voir l'efficacité puis l'efficience, en fait, de ces ressources.
Puis tu sais, la SADC fait quand même partie, c'est très peu de gens le savent, mais ça fait partie d'un écosystème pour le développement local. Donc, le développement local, on parle autant des services communautaires que des entreprises, que du milieu politique. Donc, ça fait partie d'un écosystème qui pourrait aider les communautés et les collectivités à augmenter leur qualité de vie. La qualité de vie touche tellement de choses. On a la famille, oui, l'emploi, la qualité d'emploi, les services communautaires, l'accès à la propriété. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte que voir que présentement, leurs résultats sont vraiment concentrés sur l'entrepreneuriat, ce qui est normal, étant donné leur organisation, mais de voir que ça a un impact. Étant donné mon domaine de travail, personnellement, je vois qu'il y a un impact aussi pour les nouveaux résidents.
Ouais.
Tu sais, plus d'emplois de qualité, tu sais, parce que quand on pense à l'expansion, des fois, c'est améliorer les conditions de travail pour ouvrir une nouvelle marge, recrutement à l'international. Ça inclut beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est intéressant d'avoir accès à ces services-là.
Oui, merci, merci, merci. Le président du syndicat des producteurs de bleuets du Québec se fait montrer la porte. Il y aura une assemblée générale.
Non, il y a eu. Il y a eu une assemblée générale qui a duré plus que 8 heures.
Mon Dieu, ça va pas bien.
Ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Le président sortant s'est fait montrer la porte quand même après une assemblée générale d'une durée de 8 heures. 8 heures, c'est énorme. Donc, c'est pas d'heure de dîner.
Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ou c'était à porte close?
C'était pas à porte close, mais on sait un peu ce qui s'est passé. Selon les médias, ce qui a été surtout démontré, c'est que M. Beaulieu, le président sortant en question, se plaint d'avoir été victime d'une campagne de salissage de la part de deux organisations ou deux personnes en particulier pour le faire sortir de son poste de président.
Okay.
Il ne faut pas oublier que la majorité du CA, des membres du syndicat des Bleuets du Québec, c'est des transformateurs.
Ouais.
C'est des transformateurs. Mais les membres du syndicat peuvent être aussi des producteurs. Monsieur Beaulieu voulait proposer, ça c'est un de ses gros chevaux de bataille, voulait proposer que le CA, le conseil d'administration, mm-hmm. passe de 11 à 13 parties. À 13 membres, et les deux derniers membres seraient des producteurs non affiliés à des transformateurs.
Ah, OK. Pour avoir un peu un autre son de cloche.
Oui, pour avoir un autre son de cloche, pour avoir plus de... Ben, J'ai eu de la misère à trouver quelle était la composition du CA dans le règlement général du syndicat. Mais ça reste quand même important de voir que grâce à 250 votes par la poste, plus des gens qui étaient présents, il semblerait qu'il n'y avait pas de doute que M. Beaulieu devait quitter. Donc, c'est okay. assez impressionnant comme...
8 heures, c'est long,
hein? 8 heures sans dîner.
Il y a du sang à laver, du linge sale.
Eh oui, puis pour... dans un des articles du Nouvel Hebdo, M. Beaulieu disait qu'il a dépensé plus que 100 000 $ en frais d'avocat parce qu'il va faire des plaintes pour harcèlement puis campagne de salissage.
OK.
Puis aussi que le harcèlement était rendu au point où il avait l'air de dormir.
Mais juste ça, parce qu'on voulait ajouter 2 membres, tu le sais. Quand tu passes un vote, ça passe pas, maintenant on vient avec et on avance.
Mais dans un CA, il y a souvent le changement de présidence. Il y a le changement des membres du CA. Donc, il a demandé un renouvellement. C'est là que je manque d'informations. Ça faisait combien de temps que M. Beaulieu était à présidence? Tu sais, est-ce que...
c'est du grenouillage, là, il y en a tout le temps.
Oui. Puis, en tout cas, les médias nous font paraître et la réalité vécue sur le terrain par les organisations, toutes les personnes qui vivent là-dedans savent que c'est un monde, c'est un univers entre les deux. Il y a toujours un énorme décalage. Quels étaient les problèmes internes, intestins, les problématiques intestines du CA?
Ouais.
Quels étaient les... est-ce que M. Beaulieu prenait un parti plus qu'un autre qui ne convenait pas? Il ne faut pas oublier qu'en plus, dans les dernières années...
Des fois, il y a des conflits de personnalité là-dedans qui deviennent... Tu sais, ça devient une pseudo-raison, là.
Il y a ça, mais il doit aussi... je prends aussi en compte le fait que dans les dernières années, il y a eu des pertes au niveau des bleuets, une augmentation des prix, la taxation maintenant aussi... Le revenu imposable des cueilleurs de bleuets. Il y a plusieurs éléments qui n'ont pas aidé à la période de présidence de M. Beaulieu. Est-ce que c'est par sa faute?
Bien là, ça, c'est facile. Il ne peut pas être responsable de tout. Non.
Mais ça...
Mais il y a clairement une part de responsabilité
bien,
aussi.
Ça témoigne de beaucoup de mouvements. Puis si les membres de ce syndicat-là ont décidé de voter en masse pour que M. Beaulieu s'en aille, c'est peut-être pas juste à cause d'une campagne de salissage.
Oui. À suivre! Je t'amène dans un dossier qui t'adore, les garderies. On nous a promis 1009 places en service de garde pour 2025 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Monsieur Lacombe,
on n'a pas besoin en 2025, on en a besoin il y a 2 ans.
Monsieur Lacombe, où c'est que vous allez trouver? Où c'est que vous allez trouver les professionnels de l'éducation en enfance qui vont accepter, alors qu'on est en pleine période de négociation complexe, d'aller chercher 1009 places pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 1009 divisé par 6, parce que pour une éducatrice dans un service de garde, c'est 6 enfants.
Oui, ça veut dire ça prend du monde.
On parle quand même de plus de 150 personnes.
Fait qu'il va y avoir des places, mais on ne pourra pas y mettre d'enfants parce qu'on n'aura pas d'éducatrice. Puis là, en plus, c'est compliqué de régler les conditions
mais
de travail.
Mais les places n'existent pas tant qu'il n'y a pas d'éducatrice.
Oui, c'est ça.
Donc, il faut trouver plus que 150 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne parle pas pour le Québec au complet, là. On parle pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quelque chose à prendre en compte, là. On a présentement une rareté de main-d'œuvre avec des ralentissements au niveau des services d'immigration, avec des problèmes au niveau de la reconnaissance des compétences par le principal pourvoyeur financier pour des gens qui sont compétents, qui sont soit éducatrices à l'enfance, soit à des responsables de services de garde en milieu familial.
Mm-hmm.
Puis dans les deux cas, on a une grave pénurie, malgré que présentement, on a des soutiens financiers ou des bonus donnés par par exemple, par Mme Guilmette, qui donne un soutien financier ou des soutiens encourageants pour des gens qui veulent démarrer des services de garde chez eux. Puis, il n'y a pas plus de recrutement.
Ouais.
Donc, on a quand même des incitatifs financiers qui peuvent aller jusqu'à 9 000 $ dans certains cas par année.
Quand même.
Oui, 5 000 $ pour démarrage. Donc,
mais ça crée pas du monde, ça, de l'argent.
C'est ça. Ça crée pas du monde, ça crée pas des conditions de travail intéressantes. Puis, tu sais, présentement, là, j'ai fait le calcul, mon mea culpa, je me suis aperçue, après avoir parlé avec ma responsable de service de garde, bonjour Cynthia, je t'adore, qu'elle est ouverte de 7 h le matin à 5 h le soir. Ça donne combien de temps, ça?
Ça donne combien de temps à qui?
Ça donne 10 heures par jour, 5 jours par semaine.
Oui. 50 heures.
50 heures par semaine.
Mm. Puis nous, on chiale quand on... Oui, tu vois.
Puis là, on parle d'une responsable de service de garde en milieu familial. J'ai de la chance d'avoir une fille qui a fait son 3 ans d'éducation à l'enfance, qui a ouvert son service de garde en milieu familial. 50 heures avec 6 enfants. Déjà, des fois, 10 heures avec la mienne quand elle est à Nantes.
Ouais. Des fois, moi, un après-midi, j'en ai 3, là, puis un après-midi, des fois, là, je peux...
Ils sont pas en petite enfance,
non,
là.
Non, c'est des ados, puis des
jeunes, ouais. Ils sont pas en petite enfance, ils sont pas mal plus autonomes que 6 qui ont en bas de 4 ans.
Ouais.
Donc, le recrutement de cette dans ce domaine-là est déjà difficile parce que c'est une vocation. Il faut avoir une personnalité pour faire ça. Puis, puis c'est exigeant quand même parce que c'est pas 10 heures où que tu peux mettre les enfants devant une heure devant la TV. On espère, mais ça demande quand même 50 heures d'animation, moins 2 heures, moins 10 heures de sieste. Puis de sieste, tu sais, parce que c'est de 1 heure à 3 heures de l'après-midi, là.
Oh, et puis là, il faut que tu couches, ça ne t'endort pas. Ben, c'est pas aussi facile que de dire couchez-vous puis ça dort.
Non. 6 en plus dans la même pièce.
Et en plus, ils n'ont pas la même réalité sur leurs parents, fait qu'ils n'ont pas le même rythme de sommeil, ils n'ont pas le.
C'est pour ça que le défi du recrutement n'est pas juste parce qu'il y a une rareté de main-d'œuvre. C'est parce que c'est un domaine particulier qui demande des compétences et une personnalité particulière, en plus d'avoir un désir réel. Du bien-être de l'enfant, là. C'est pas juste un revenu puis d'avoir quelqu'un dans, tu sais, une garderie dans un sous-sol ou autre. Donc, il faut avoir un programme éducatif. Il faut beaucoup de choses quand même. Même si tu as eu la formation de simplement responsable de service de garde en milieu familial, là. Bon, c'est un domaine qui est quand même très particulier. Rareté de main-d'œuvre, oui. Puis pourquoi ça me touche vraiment? Oui, c'est une belle promesse, mais 1009, là, excusez-moi, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Tant que... Puis qui est le plus sacrifié par le manque de place? Qui prend un congé quand la garderie est fermée à cause de...
Charge mentale des enfants, c'est encore aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sur le dos des femmes. C'est démontré par des études. Chaque fois qu'il y a des crises, que ce soit l'austérité, la pandémie, il y a des problématiques, il y a un problème, bien, c'est ça. T'as raison.
Et qui s'occupe des services de garde en milieu familial?
Ben, personne à date, là, ce que je vois.
Oui, mais majoritairement des femmes.
Ben oui.
Donc, encore une charge mentale double pour les femmes de nos communautés.
OK, c'est intéressant. Passons au niveau régional, au niveau des énergies renouvelables. Saguenay-Lac-Saint-Jean serait un Klondike.
Oui, selon le député Sylvain Gaudreau, qui est présentement à la COP26 à Glasgow, on parle quand même de... c'est pas à Glasgow.
Oui, c'est à Glasgow.
C'est à Glasgow. Excusez, merci.
Très belle ville, d'ailleurs.
Bien, on a plusieurs opportunités pour du développement éco-énergétique très intéressant, puis avec des espaces qui nous le permettent. Présentement, à Saint-Gédéon, qu'est-ce qu'on va pousser? Et je trouve ça magnifique. C'est des éoliennes.
Absolument. Ben oui, c'est en face de chez nous. On les voit de chez nous, là.
Puis, donc, il y a beaucoup d'opportunités avec nos barrages hydroélectriques. Oui. Nos espaces verts, l'éolienne, l'énergie éolienne. Puis, même si présentement, au mois de novembre, on voit que la lumière...
La biomasse aussi.
La biomasse,
oui. Faut pas l'oublier, on est une région forestière. La biomasse, elle est là, prenez-la. En fait.
C'est vrai. Puis, la diminution de l'exploitation carbone aussi. Mais qu'est-ce que je disais? Parce qu'au niveau du mois de novembre, on voit que la lumière décline. Mais il reste quand même qu'on a un bon potentiel pour l'énergie solaire là, dans certaines circonstances. Tu sais, présentement, avec Hydro-Québec, lorsque quelqu'un s'installe des panneaux solaires sur sa maison, le fonctionnement. Panneau solaire, oui, alien résidentiel ou autre, le fonctionnement, c'est que tu dois te connecter au réseau. Mm-hmm. Puis, tout ce que tu fais de plus que ta consommation est crédité à ton compte. Imaginez. Imaginez si une entreprise disait, moi, je profite de mon toit plat. Puis, je fais ça. Donc, il y a vraiment une opportunité. Quand on dit un Klondike, c'est une opportunité grandissante, un territoire non exploré avec un grand potentiel d'exploitation.
En fait, là, les toits verts, là, ça devrait être partout. De la verdure sur les toits parce qu'on peut cultiver. Puis en plus, panneaux solaires, récupération d'eau. Puis on peut même mettre des toits verts avec juste de la mousse. Là, puis ça, ça vient tout avaler les particules polluantes faites par l'automobile.
En plus, en plus d'isoler le bâtiment tel quel, ben oui, parce qu'il y a moins de perte de chaleur. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs choses, mais ça demande aussi une construction beaucoup plus solide. Il y a plusieurs choses qui rentrent là-dedans. Ça, je ne suis pas ingénieure en bâtiment, mais je sais que c'est pour avoir déjà voulu faire la même chose. Okay. Ça demande des installations complexes, mais ça rapporte aussi beaucoup d'éléments positifs. Mais je trouve ça le fun que le député Sylvain Gaudreau souligne la possibilité d'un Klondike. Ça veut dire que c'est pas juste comme « Ah, c'est des efforts ». Non, c'est des opportunités économiques.
Oui, mais il va falloir faire des choix aussi. En ce moment, on produit, mettons, beaucoup d'électricité, puis on la donne aux grandes entreprises. Est-ce qu'on pourrait mieux faire avec ça, peut-être, là, tu sais, je pense à Énergie Saguenay, là, tu sais, tous les petits barrages qu'on a, qui sont des barrages municipaux, qui finalement, on donne aux grandes compagnies pour les garder, tu sais, quand on voit aussi, je sais pas, ça, c'est...
Bien, tu sais, par exemple, si on pense, par exemple, aux opportunités économiques de solutions environnementales qui peuvent être intéressantes, il n'y aurait pas une subvention qu'on pourrait faire pour les grandes entreprises pour avoir des panneaux solaires sur leur gros bâtiment?
Bien, ce serait déjà plus intéressant que ce qu'on fait, là, leur donner l'électricité, puis on signe des ententes avec eux, puis eux ne respectent pas l'entente jamais, puis finalement, on fait jamais.
Genre, moi, c'est ça. Bien, à la place de dire, vous vous engagez, tu sais, on vous donne l'électricité à un tel point, puis vous engagez à faire des améliorations ou investir dans le communautaire, puis ça pas respecté, bien, on vous donne de l'argent pour installer les panneaux solaires, mais telle date, bien, on revient au prix régulier. Mm-hmm. Donc, on vous donne la chance, on vous donne un moratoire pour installer, pour diminuer votre consommation.
Même résidentielle, je pense bien qu'on va être rendu là. Parce que quand les panneaux solaires ont été inventés, là, écoute, ça coûtait extrêmement cher. Maintenant, là, c'est 100 fois moins cher d'installer un panneau solaire. Puis, il y en a même des tout petits. Moi, en voyage, je marche beaucoup, puis j'ai un petit panneau solaire sur mon sac pour être capable de recharger mon téléphone, etc. Puis ça fonctionne super bien. J'ai juste à marcher, puis il fait beau dehors, on marche. On recharge nos appareils.
Bien, même pour les chasseurs, ce petit kit de panneaux solaires-là, tu le mets dans ton dash, tu branches ton cellulaire dans ton auto. Les solutions sont là. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Puis c'est vrai que le territoire a ce potentiel-là. On a beaucoup de bons vents. Puis on est quand même dans un plateau. On est dans un creux sur le plateau canadien. Donc, on a quand même des excellents potentiels d'énergie renouvelable directement sur notre territoire.
Génial. Bon, avant de prendre la pause, tu voulais nous parler de l'accès possible aux médicaments le plus cher du monde.
Oui, grâce à la petite Madison, mm-hmm, ça a été c'est quand même une dose qui coûte plus que 2 millions de dollars, ouais, la dose.
Là, ouais.
Donc, mais c'est un...
Faut que tu l'échappes.
Hey, j'imagine la pression de l'infirmière qui donne l'injection.
Ben oui. Ouais.
Mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus après la pause, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup sur comment calculer la valeur d'une vie. Bien, calculer la valeur économique d'une vie, c'est quand même un des défis qu'on a présentement au ministère de la Santé, puis au niveau de la régie des médicaments, parce qu'on se plaint en même temps que le système de santé coûte cher, mais il faut se déterminer quelle est la limite. C'est une question éthique à se poser, puis ouais, que même si on ne se pose pas, on se la pose indirectement. Pourquoi je veux en parler? C'est parce que je trouve que le calcul a été extraordinaire de la part du gouvernement. Puis c'est une bonne idée parce qu'on parle quand même d'un ratio qualité de vie et durée de vie versus le prix qui est très intéressant.
Oui. Cependant.
Et c'est pour ça que je veux qu'on en parle plus en détail et qu'on prenne le temps
après
la pause.
Non, mais j'ai pas grand-chose à dire. Je veux pas qu'on s'étende là-dessus parce que là, peut-être que ça va être mal perçu ce que je vais dire. Mais je trouve que c'est une approche qui est encore très coloniale et occidentale. Parce qu'une vie ici vaut beaucoup plus que beaucoup de vies à travers le monde dont on se fout énormément. On a juste à penser à ce qui se passe en République démocratique du Congo ou un peu partout dans le monde. Fait que des fois, je trouve ça beau, je trouve ça un beau geste, puis c'est la bonne chose à faire. Mais même ici, je veux dire, le rapport entre un enfant puis un enfant des Premières Nations, la vie ne vaut pas la même chose. Et ça, on est loin de la justice sociale à ce niveau-là, mais...
Mais je te propose qu'au retour de la pause, je puisse vous parler un peu d'une méthode de calcul de Qualy.
D'accord. On va s'en reparler après la pause. Elle insiste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Moi, je travaille en français.
Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne.
Au Québec, on travaille fort pour que nos transports fonctionnent avec notre énergie propre. Car non seulement c'est bon pour l'environnement, mais ça fait rouler notre économie en créant de l'emploi pour Robert.
Oui, monsieur.
Et ça permet aussi de soutenir des entreprises innovantes, comme celle des Sœurs Chang.
Merci.
Et ça aide au développement des régions en faisant travailler Alain. Et Alain Junior.
Quoi? Je travaille, moi?
Dans une quinzaine d'années, mon homme.
Phew!
L'électrification des transports, c'est bénéfique pour nous tous.
Hey, on est de retour de la pause. On a fait une superbe pause. J'espère que vous aussi. Et revenons à ce calcul du Qualy.
Le Qualy, dans le fond, c'est une méthode de calcul qui est encore discutée entre les économistes et les responsables de la santé. Ça, c'est normal. Mais c'est un ratio de la durée de vie ou de la versus la qualité de vie qui est offerte aux gens qui reçoivent un médicament. Mm-hmm. On ne parle même pas de la valeur monétaire du médicament. On parle vraiment, c'est un score qui va entre 0 et 4. Qui va permettre de déterminer lequel est le plus intéressant pour quel patient, puis quel le sera le plus rentable selon les critères du patient. C'est ça qui est intéressant.
On pense à la rentabilité dans ces cas-là.
Il ne faut pas oublier que l'économie, au niveau de l'histoire, là, on parle vraiment de l'économie monétaire, on parle de l'économie des industries aujourd'hui. Mmh. Mais dans l'histoire, avant, on parlait de l'économie sociale, on parlait de l'économie philosophique. Mais de l'économie philosophique, c'est le fonctionnement des relations des échanges entre deux concepts. Donc, on parle beaucoup du monétaire, mais le Qualy, le fonctionnement, c'est par exemple entre 4 et 0. 0, c'est que tu es dans le coma au niveau de la qualité de vie, puis 4, c'est comme si tu n'étais pas malade.
OK.
Puis là, à 4.3, à 3.5, c'est qu'il te manque un bras. T'sais, donc, ça te donne une idée de l'échelle. Mm-hmm. Et tu ne peux pas utiliser ton bras, puis tu y vas par les années de vie. Donc, entre un médicament A et B, par exemple, le A peut dire « dure 4 ans », puis le B dure 10 ans. Si tu calcules seulement par les nombres d'années, bien, tu vas dire le B.
Oui.
Mais si je rajoute le Qualy, ça veut dire que si le A, pour 4 ans, il te fait du 3,5.
Mais que le B, sur 10 ans, il te fait du 2, mettons.
Il te fait du 0,5.
Oui.
Bien, si on fait le ratio, ça donne le même ratio Qualy.
Ah, OK.
Ça donne, ça donne aux alentours de 3,8 entre les deux. Donc, l'intérêt de ce calcul-là, l'intérêt de ce fonctionnement-là, donc de la perception, c'est pas pour dire on refuse un médicament puis il vaut plus cher qu'un autre. C'est lequel convient mieux aux besoins de la personne qui va l'utiliser. Donc, pour ça que ça a pris du temps dans le cas de la petite Madison, c'est est-ce que ce médicament-là va permettre d'avoir une qualité de vie, donc un quali plus intéressant sur le long terme? Parce que c'est la maladie spinale amyotrophique. Mm-hmm. C'est une maladie qui est déjà présente dans, dans nos milieux, qu'on voit. Bien, là, le fait que la dose soit donnée à des enfants de moins de 6 mois permet de garder une qualité de vie en haut de 3, à peu près. Je ne suis pas économiste de la santé, mais pour 20, 30, wow. 40 ans. Donc, le 2 millions sur 20, 30, 40 ans, versus des gens qui, on connaît tous des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vivent avec cette maladie, qui ont de la difficulté à utiliser des membres, qui ont toutes leurs capacités cognitives, mais qui sont privés, qui vivent. C'est ultra intéressant. Le Qualy est ultra intéressant parce que c'est un nouveau médicament.
Donc, nouveau système de cotation.
Ce n'est pas un nouveau système. C'est ça qui est intéressant, mais c'est un système qu'on entend de plus en plus parler parce que, par exemple, la distribution du vaccin à travers le monde.
Excusez.
Oui, bien, c'est là que c'est en utilisant cette méthode de calcul-là, bien, autant les économistes peuvent dire, ouais, bien. Mais ça donne aussi des outils aux organismes communautaires en disant investir dans la santé dans les pays qui sont considérés comme défavorisés, mais qui sont c'est un beaucoup plus rentable au niveau du Qualy que de donner l'accès, par exemple, à des livres. Tu sais, par exemple, j'ai adoré un exemple qu'on m'avait donné. Dit un organisme d'éducation en Afrique ramasse de l'argent. Puis il dit, on investit 1 million. Je donne des chiffres au hasard. Puis c'est une situation complètement fictive. Si je te dis, c'est dans le cadre de l'éducation, c'est pour donner des livres, accès, puis un prof. C'est un organisme d'éducation. Tu vas être plus porté à donner. Mais si je te dis que c'est pour un vaccin, puis pour des équipements d'hygiène féminine, tu vas te dire, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Mais les recherches ont prouvé que c'était ça le plus grand frein de l'éducation dans les communautés. Donc, encore une fois, l'accès au vaccin de la COVID-19, l'accès au vaccin, aux services de santé dans les communautés à travers le monde, augmente le Qualy, pas juste au niveau de la santé, mais au niveau social, sur tous les autres aspects de l'individu. Donc, c'est pour ça que je me souviens qu'avant la pause, on distinguait, mais de là, on distinguait entre la vie d'une personne privilégiée et d'une personne qui vit de la discrimination, souvent intersectionnelle, donc souvent plusieurs discriminations dans le même. Ouais. Dans le même. Bien, de là l'intérêt d'utiliser le Qualy, mais de la bonne façon. C'est pas juste dire qu'il y a une vie plus qu'un autre.
Okay. C'est super intéressant pour vrai. Mais il faudra passer à la prochaine parce que là, ça fait, comme on en a parlé, là, comme du Qualy, là, on va se faire des t-shirts. Non, mais oui. C'est vraiment intéressant, je vais aller lire là-dessus. C'est intéressant parce que moi, le côté.
Q-A-L-Y.
Ouais, parce que moi, le côté, justement, la disparité nord-sud, là, ça me touche énormément. Puis des fois, je trouve qu'on. Puis je suis content qu'on puisse sauver les enfants ici, mais je trouve que des fois, on en fait peut-être pas assez pour les enfants ailleurs.
Puis tu sais, ça apporte beaucoup de sujets. Là, je vous parle au niveau économique. Mais économie de temps au niveau des ressources ou des effets donnés, bien, tu sais, on n'utilise pas le Qualy de la même façon dans la médecine de catastrophe versus de la médecine à long terme.
Ouais.
Donc, c'est plein de choses qui rentrent en compte. Donc, c'est très intéressant si, étant donné qu'on l'a vécu, de plusieurs manières au cours des deux dernières années, j'ai trouvé ça très intéressant de recevoir cette formation-là. Puis, je vous invite à vous renseigner parce que ça peut vous poser des questions aussi au niveau de votre manière de vivre. Parce que ça inclut aussi ça.
Bon. Super! Non, c'est parce qu'il y en a encore plein de beaux sujets, puis on a de moins en moins de temps. Je veux absolument, là, je vais par priorité personnelle.
Vas-y.
Je veux absolument qu'on parle écoute, on se croirait dans les années 60, là, même avant, le discours unilingue anglais du PDG d'Air Canada. Écoute, on apprend ce matin, en plus, que le commissaire aux langues officielles a appelé lundi l'équipe de M. Rousseau pour lui dire « c'est pas une bonne idée, vous devriez pas faire ça, c'est un sujet sensible. » Bon.
Et tous les membres du CA étaient en beau contre leur président, contre leur PDG.
Écoute, fait que là...
Puis, il l'a fait pareil!
Mais il n'y a pas rien que ça. C'est que le faire, c'est une affaire. Je comprends, mais je trouve qu'il a mis de l'huile sur le feu en disant des affaires comme... Ça fait 14 ans que je suis à Montréal, on peut vivre facilement en anglais. C'est très, très, très sensible. On est en train de se poser des questions, de voir comment... Puis, tu sais, je pense que être bilingue, là, c'est bénéfique pour tous ceux qui le sont, là, même trilingue, etc. C'est une bonne idée. Mais je sais pas. Puis souvent, quand on va me dire « Ah, j'ai pas le temps », moi, je vais regarder la personne, je vais dire « Plutôt, tu mets pas ça comme priorité. »
Oui.
C'est ça, là, la différence. Là. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il n'a fondamentalement rien à foutre du français. Là.
Puis dans sa dégaine, c'est vraiment ça que ça voulait dire aussi.
Il faut savoir que Air Canada a, à chaque année, une centaine de plaintes par année au commissaire des langues officielles à cause de problèmes de langue. Les premières fois, j'ai cherché un peu, là, les premières fois où on a mis le doigt sur une problématique sur les langues officielles Air Canada, c'est dans les années 70. C'est pas terminé. Il y a une problématique à chaque année, il y a de la discrimination, il y a des plaintes, et là, 200 plaintes en deux jours au commissaire des langues officielles contre M. Rousseau, appel à sa démission par trois parties au provincial. Je pense qu'il ne réalisait pas l'ampleur. Je pense qu'il est complètement déconnecté, cet homme-là, de la société québécoise. Puis qu'est-ce qui est sensible puis important aussi pour...
Puis il ne faut pas oublier que Air Canada, ce n'est pas une entreprise comme les autres. C'est Air Canada!
Oui.
Tu sais, c'est pas WestJet. C'est une entreprise qui est directement reliée et soutenue et historiquement reliée au gouvernement du Canada.
Et qui est soumise à la loi des langues officielles,
comme n'importe quelle autre entreprise
canadienne.
Surtout, n'importe quelle autre entreprise canadienne contenant plus que 10 employés.
Il n'y en a pas mal plus que 10
à Air Canada. Ouais. Non, c'est incroyable. Ça m'apporte tellement sur un sujet. J'ai entendu une entrevue ce matin avec une personne qui est arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ne parlait qu'en anglais.
Bien entendu aussi.
Et c'est une personne de l'Orchestre symphonique de Saguenay. Puis cette personne-là, bien, elle dit encore qu'elle a de la misère, puis ça fait partie de la routine de l'apprendre. C'est pas la même catégorie, on parle pas du même domaine, mais on parle quand même que apprendre une nouvelle langue, c'est complexe, c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour ne pas le faire lorsque tu es dans une institution nationale de cette ampleur!
Hey, c'est de la volonté. Là, moi, j'ai voyagé énormément. Là. J'arrive d'un pays, là. Écoute, là, je connais rien.
Mais
là.
C'est toi aussi, ça fait ses doigts.
Non, mais je vais apprendre 4, 5, 6 mots, bonjour, merci. Et ça, là, en une journée, là, juste pour créer des liens avec les gens. Les gens sont tellement contents. Ils savent que je ne parlerai pas leur langue, mais ils voient que je fais un effort. Puis là, j'ai pas eu l'impression qu'après 14 ans, M. Rousseau a vraiment fait des efforts.
Il y a autre chose, le CA qui l'a mis là.
Ben oui, absolument, mais le CA est en majorité...
Après, ils se disent, ben, on se détache de ça. Non, vous l'avez mis là, puis vous l'avez toléré 14 ans.
Il faut savoir là, que le CA d'Air Canada, là, je lisais un article ce matin, là, c'est des gens qui, pour une douzaine de réunions par année, font 200 000 $ chaque là, pour prendre ce genre de décision-là. Je pense que c'est... Puis là, ils viennent rentrer en poste, là. Je veux dire, Air France là, vient d'engager un Britannique, mais il est bilingue, il a appris le français. Non, je veux dire, ça se trouve là. Je trouve ça inacceptable, vraiment.
Non, puis, tu sais, faut se le dire. Quel était l'ancien emploi de notre présent premier ministre du Québec?
Il était à Air Transat.
Donc, on parle quand même d'une compagnie d'aviation reconnue au niveau national. Et bilingue. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de « je suis trop occupé ».
Non,
il n'y a pas de « je suis trop occupé ». Les Français, les francophones apprennent l'anglais, les anglophones peuvent bien se débrouiller un peu en français. Donc, quand je travaille avec plusieurs communautés, puis plusieurs langues. J'ai déjà travaillé avec une personne qui ne parlait que le mandarin. Elle arrivait à Girardville. Ben, excusez-moi.
Ça n'a pas été simple.
J'ai passé deux jours sur Google Translate.
Ben oui.
Mais au moins, il y a eu un échange, puis elle devait pas le lire, le Google Translate, mais devait le dire. Donc, tu sais, tu peux pas dire, après autant de temps, dire « non, j'ai pas eu de besoin, donc je ferai pas l'effort ». On parle quand même d'acceptation sociale, de reconnaissance des deux langues officielles. On parle aussi que combien de pourcentage de l'équipe de Air Canada est francophone ou bilingue? Je ne sais pas, mais je suis sûre que ça doit être ultra scandalisant. Scandaleux pour les employés qui sont francophones, qui apprennent l'anglais, ou les personnes qui ont postulé pour ce poste, par exemple, et qui sont bilingues, puis que finalement, c'est une personne qui...
Puis on voit que c'est une problématique qui est plus insidieuse que ça, parce que normalement, c'est le gouvernement qui a mis la loi sur le bilinguisme, hein? C'est le père de notre premier ministre en ce moment, qui a fait la loi sur le bilinguisme, OK? Et on réalise la semaine dernière ou cette semaine que le ministère de l'Immigration veut engager plein de gens mais demande que l'anglais. Je m'excuse, là, mais des immigrants, on en a besoin partout. Il y a des communautés francophones. Puis là, ça va plus loin que ça, là. Parce que lui, c'est un PDG d'entreprise, il fait des affaires, il est partout à travers le monde, on peut comprendre. Mais on a Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, le premier ministre, là. Il n'est pas capable de dire un mot français. C'est la deuxième plus grosse communauté francophone. Je veux dire, c'est une problématique, là. Je veux dire, les gens, comment ils peuvent trouver crédible un premier ministre qui est supposé de leur représenter, les défendre, quand il n'est même pas capable de dire bonjour, merci, là?
Puis, même pas capable de répondre à une question en français sans avoir à utiliser Google Translate. Mm-hmm. Puis même là, ça veut pas dire qu'ils vont le faire. Souvent, ils peuvent répondre en anglais à la place. Donc, tu sais, c'est aberrant. Je peux comprendre, c'est dur d'apprendre une langue, mais ça vient avec les responsabilités d'une représentation politique comme d'un poste comme
ben
ça.
Oui, ben absolument.
Donc, tu sais, on a... Pourquoi au Parlement, ils sont moins bien payés que le PDG d'Air Canada?
Beaucoup moins bien payés. Hein?
Beaucoup moins bien payés, qui ont autant de visibilité politique, sinon moins dans certains cas. Mm-hmm. Oui, ils sont élus par les citoyens, mais des fois, Air Canada a plus d'impact dans les communautés du Canada que certains politiciens. Puis, ça serait pas grave que monsieur fasse un discours unilingue anglais. Un discours important quand même, là. Unilingue anglais. Est-ce qu'on tolérerait ça d'un représentant politique? National, je parle national, non, on parle d'Air Canada. On tolérerait pas ça. On tolérerait pas ça. Même que les députés qui sont unilingues anglais vont travailler en partenariat avec des députés qui sont bilingues pour aider, ou que la personne qui est unilingue anglophone demande à la personne qui est bilingue de répondre. Donc, il y a un travail d'équipe. Mais là, qu'un premier ministre d'une province...
Non, c'est inconcevable. Hey, on est d'accord. On va passer à un autre sujet, d'accord. Parce que j'ai encore des beaux sujets.
Oui.
Un sujet qu'on ne parlera peut-être pas longtemps, mais moi, je trouve super important. Il y a eu le rapport de l'ancien juge Bastarache en lien avec l'Université d'Ottawa sur la liberté académique quand, il y a quelqu'un qui avait prononcé le mot « M » qui était bon. Et là, le rapport est assez clair. Les universités, les collèges, les organisations, pas les organisations, mais les établissements d'enseignement doivent préserver la liberté académique de leurs enseignants. Et là, on le voit, il y a une mauvaise gestion à Ottawa. On n'a pas écouté, on n'a même pas demandé la version de l'enseignante. On a fait du clientélisme. Il faut que ça s'arrête. Puis moi, ce que j'ai écho, en tout cas, moi, j'ai rencontré la direction de mon cégep, puis on s'entend, c'est important la liberté académique, c'est ça, il faut parler des choses. Je veux dire, moi, j'enseigne la science politique, je dois parler de colonisation, des Premières Nations, d'égalité de genre, je dois parler de plein de choses, je dois nommer certaines affaires, c'est pas toujours plaisant, mais c'est ça, pour une compréhension dans un cadre académique. Et là, ce que nous dit M. Bastarache, c'est, ben c'est ça qu'il faut qu'il soit. Il faut être à l'écoute des plaintes. Ça se peut que des gens se sentent lésés. Il faut trouver des solutions, mais il faut aussi écouter puis préserver ce droit-là qui est important, qui fait partie de la liberté d'expression. La Cour suprême nous l'a rappelé la semaine dernière. La liberté d'expression est importante. Donc, je dis super.
Bien, tu sais, ça entre en compte aussi. Oui, il y a la liberté d'expression, mais il y a quelques semaines déjà, le ministre de l'Éducation avait co-signé une lettre contre la cancel culture, contre la culture de l'annulation. Si on nuit à la possibilité d'exprimer ces idées-là, ben on les augmente. Mm-hmm. On les radicalise.
Absolument.
Si on n'a pas la liberté d'exprimer une idée ou de la verbaliser, Bien, comment on peut échanger, puis...
Dans le respect, là, parce qu'il y a toujours des mots qui vont être utilisés pour faire des insultes, mais je pense que dans le ton ou dans comment on se parle, on est capable de faire la différence entre les deux. Puis aussi, moi, je veux défendre les gens qui ont des sensibilités extrêmes sur des affaires. Oui. On ne sait pas ce que ces gens-là ont vécu. Je vous dis pas, vous n'avez pas le droit de vivre ça.
Au contraire.
Mais je pense qu'à un moment donné, arrêter d'en parler ou le faire différemment. Moi, je nous donne maintenant des avertissements avant des cours ou avoir des sujets plus sensibles. Si je passe des documentaires ou je montre des documents qui peuvent avoir une certaine sensibilité, j'avertis puis j'offre la possibilité de faire autre chose ou de faire les choses autrement s'ils ne veulent pas. Certains, puis en général, ça ne se passe pas. Là. Les jeunes sont prêts à entendre ce discours-là et je pense que quand ils sont avertis, ils savent à quoi s'en tenir.
Bien, c'est
très bien.
Puis ça reste quand même un outil éducatif, selon moi, parce que exprimer c'est quoi le contexte de l'époque, quelles sont les évolutions depuis, quelles sont les... expliquer d'où vient cette réflexion-là, puis comment ça a été répondu aussi. Tu sais, une contre-culture, ça répond à une culture, donc il faut comprendre. C'est comme le complotisme, c'est une contre-culture. Donc, si on tait ou on diminue ou on fait de la cancel culture sur le complotisme, ça augmente. Ça augmente au lieu de faire une écoute puis d'avoir un échange afin d'écouter les deux parties.
C'est sensible parce que là, entre cancel culture puis faire attention à certaines affaires, tu sais, je suis pas sûr que la première version de Piment Fort sera encore super cool à la TV là, parce que tout ce qu'on faisait, c'était rire du monde. Tu sais, à un moment donné, il y a d'autres choses de drôle. On peut-tu passer à d'autres choses? Je pense que la société évolue aussi. Mm-hmm. Puis que dans les années, je sais pas, moi je repense à chez Denise, là, à être homosexuel, c'était comme un personnage pour faire rire. Aujourd'hui, ben c'est la normalité, puis c'est ça. Puis c'est bien correct. On a évolué là-dedans, puis bravo. Il faut continuer de le faire, mais il faut le faire en dialoguant et non pas en se lançant des injonctions.
C'est carrément ça. Donc, tu sais, l'extrême peut être des deux côtés. C'est vraiment une question d'écoute. Mais si on tait un parti ou un mot ou une expression en particulier, mais ça ne permet pas d'avoir accès à l'écoute nécessaire, faut pas non plus tomber dans la victimisation des personnes. Puis au contraire, utiliser... Tu sais, quand on parle d'écoute, quelqu'un qui a des propos racistes versus quelqu'un qui rapporte des propos racistes. Mmh. Ça fait partie de ça, là. Si quelqu'un utilise le mot en haine en rapportant les termes, puis quelqu'un dit « Non, tu n'as pas le droit d'utiliser ça. » Donc, tu es en train de me dire que je peux pas parler, je peux pas rapporter un propos que j'allais défaire.
Que tu allais défendre, que tu as une affaire. Tu sais, c'est ça. Ouais, non, mais tu as raison.
Donc, c'est là l'importance de l'écoute.
C'est le fun, on est d'accord.
Encore?
Super! Hey, il me reste un dernier sujet super important. Je mixe deux sujets.
D'accord.
COP26 qui est en ce moment à Glasgow. Beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de discours, hein? On attend encore des actions, beaucoup de discours. Il y a quand même des signes positifs. En tout cas, moi, j'ai décelé certains signes positifs. Et avec ça, ben une étude de
l'Université de Sherbrooke.
L'Université de Sherbrooke qui nous dit qu'il y a des signes d'éco-anxiété chez près de 50 % de la population.
50 % des jeunes adultes qui ont été interrogés par l'Université de Sherbrooke, donc on parle d'une recherche très locale là, au Québec, démontrent des signes d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, ça veut dire que les personnes vivent un stress face à leur avenir au niveau de l'écologie environnementale, oui, mais ça a un autre niveau, là. On peut s'en parler puis être stressé, mais que ça pollue sa vie. Mm-hmm. Au point de ne pas être capable de penser à autre chose ou vivre un stress constant, d'être dans un état de stress dès qu'on parle de l'environnement.
Moi, je le vois beaucoup, là, des jeunes qui pensent à leur avenir puis qui voient la fin du monde, là. Parce que... puis là, ils pensent à leur... Même moi, là, je pense à mes enfants, mais même, tu sais, aux enfants de mes enfants, sur quelle planète vont pouvoir vivre? Là?
Bien, lorsque ça cause une anxiété, parce que l'anxiété aussi, c'est un sentiment d'impuissance dans une situation qui s'en vient être négative aussi. Là. C'est un stress. L'anxiété, c'est un stress généralisé. Là. Mm-hmm. Donc, c'est important de le souligner. C'est important. Tu sais, ça fait des années qu'on entend parler de l'environnement. Ça fait des années, même des décennies.
1972, la conférence de Rome.
Puis on dit, c'est pas stressant. Là, c'est plus stressant. Là. C'est urgent, c'est essentiel.
Ah oui, là, on
n'est
même pas.
Hein?
Non, c'est essentiel. Puis moi, je veux parler des trucs que je trouve intéressants à la COP26. C'est que, réchauffement climatique, gaz à effet de serre, c'est important. Bon, on en discute aussi. Mais là, on prend des mesures plus ciblées. Hein? Lutter contre la déforestation, hyper intéressante mesure. Et surtout, c'est la teneur des discours. Il y a 5 ans, là, allez réécouter les discours là, de la COP, je ne sais plus lesquels, là, mais celle de Paris.
COP 21.
Vous allez entendre des politiciens qui disent du bout des lèvres, là, il y a urgence, il faut faire attention, pas oublier. Aujourd'hui, le discours politique, là, il est très clair. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Là, il faut sanctuariser les ressources, les énergies fossiles. Il faut. Tu sais, là, on a dans le discours déjà un gros changement et j'espère que ça va se traduire par des actions. Parce que moi, dans vie, il n'y a rien qui m'énerve plus que quelqu'un qui dit moi, je suis comme ça, mais qu'il ne l'est pas vraiment ou qui ne fait rien pour démontrer qu'il l'est ou qu'il va faire quelque chose. Attends. Ah oui, Justin Trudeau et son superbe plan vert qu'il n'a jamais mis en action. Au contraire, il a investi 1,9 milliard dans les énergies fossiles puis il a acheté un pipeline. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est qu'au-delà du discours, on veut. Tu sais, les environnementalistes, lors de la dernière campagne électorale, ont dit le meilleur plan vert, c'est celui des libéraux. Super, mais si vous le faites pas, il se passe rien, là. Il faut agir.
C'est bien beau, les écrits, sont où les gestes?
Ben oui, c'est ça. C'est comme dans la vie, là.
J'ai pas grand-chose à rajouter. On est encore d'accord.
Mais mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui va se passer avec cette émission? OK, donc on va suivre ça
oui.
avec vous. On espère qu'il y aura des mesures. On sait que nos politiciens sont là. On voit même François Legault qui n'est pas très éco-anxieux, là, on le sent, mais qui veut faire quand même des gestes au niveau du transport électrique. Donc, il le voit d'une manière économique. Et c'est là où c'est intéressant.
Oui.
Parce qu'on arrête de faire ces économies contre l'environnement. Non, il faut arrêter l'environnementalisme, l'économie verte, ça existe. Et François Legault est en train de défendre ça en disant « Écoute, venez au Québec, on a de l'énergie, on a des expertises, on va développer des véhicules électriques, des batteries, des choses comme ça. » Wow! C'est ça qu'il faut faire!
C'est tu un, potentiel, c'est un potentiel économique extraordinaire, d'exportation extraordinaire. Parce qu'on est en avance sur tellement d'énergie qu'on est capable d'utiliser que c'est des solutions qui vont être cherchées dans d'autres pays. C'est le temps d'investir dans le Klondike du Saguenay-Lac-Saint-Jean en énergie renouvelable et en solutions environnementales.
Il y a des fonds d'investissement qui représentent 5 200 milliards d'investissements sur la planète qui ont dit au gouvernement et à l'ONU « Dépêchez-vous, faites quelque chose. » Fait qu'à un moment donné, ces gens-là, s'ils font pas de la business, c'est parce qu'ils voient que la business, ça va être plus difficile à faire dans l'avenir si on prend pas ça au sérieux maintenant.
Quand c'est rendu que c'est les banques qui disent « Je veux plus on diminue nos investissements dans les domaines pétrolifères pour investir dans l'environnement », je pense qu'il y a un changement de paradoxe.
De paradigme.
Excusez.
Changement de paradoxe, j'aime ça. Salut, Joannie, merci.
On se voit dans 2 semaines.
On se voit.
Prochainement.
Prochainement. Merci à vous d'avoir été là et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine. Allez voter.